Topo 12. Jésus appelle ses disciples dans l'évangile de Luc. Hier, nous étions au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste, indiquant Jésus à ceux qui deviendront ses premiers disciples, André, Simon et un autre. Ce soir, nous nous tenons au bord du lac de Génézareth. Les mêmes sont là, Simon et son frère André, Jacques et Jean. Le récit est différent, mais l'appel est le même, tout quitter pour suivre Jésus. Écoutons comment Luc nous raconte cet appel au chapitre 5 de son évangile, versets 1 à 11. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit. Et de là, barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez-vous filet pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Il se trouve... ce jour-là, comme beaucoup d'autres, une foule autour de Jésus pour écouter la parole près du lac de Tibériade. Il y a là les premiers fidèles, les fans de Jésus. On imaginerait assez facilement que ce soit dans ce groupe que Jésus va choisir, ceux qui deviendront ses intimes, ses apôtres. Et pourtant non. Jésus, comme souvent dans l'Évangile, nous prend au dépourvu. On imagine Simon, un peu à l'écart de l'agitation. On l'imagine accroupi dans l'eau, indifférent à la petite houle qui atteint ses vêtements, absorbé par la répétition têtue des gestes quotidiens, laver les filets, les plier, les glisser sous le banc de la barque qu'il faut tirer un peu plus loin sur la rive, au cas où le vent lèverait dans la nuit des vagues plus hautes qu'en ce début de soirée. Il vaut mieux pour Simon être encore les pieds dans l'eau et penser que sa vie tient dans ses gestes coutumiers. Il vaut mieux pour lui ne pas laisser filer sa pensée vers plus tard, vers la venue du soir, où il reviendra sans poisson à la maison, déliant de son regard fermé le pincement d'espérance qui étreignait le cœur de ceux qui l'attendaient. Bien sûr, il y a cet homme sur la plage qu'il parle d'une voix forte, qui parle comme le rabbi de la synagogue les jours de fête de sabbat, avec ce petit tiraillement dans la voix qui laisse entendre que tout ne peut pas être dit, que la parole est trop grande pour tenir tout entière dans des mots. Mais Simon n'écoute pas vraiment. Il connaît déjà les prophètes. Il sait qu'un Messie viendra un jour, et avec lui la justice et la consolation. Mais en attendant, il faut bien manger, car le temps est révolu où Dieu nourrissait son peuple au désert en faisant tomber la manne du ciel. Au cœur de ce quotidien, pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Lorsque cet homme qui parle fort se tourne vers Simon en s'inclinant légèrement, et en murmurant une parole qui n'est adressée qu'à lui, alors la lassitude du pécheur se dissipe et laisse place à quelque chose de nouveau. Qui parmi nous a senti un jour ce regard bienveillant de Jésus posé sur lui? Qui parmi nous a entendu un jour cette parole adressée à lui seul? Se souvient sûrement de cette légèreté de l'être qu'il a saisie à cet instant-là. Prenons le temps de faire mémoire de ces instants à nul autre pareil. J'aime à penser que jusqu'au dernier jour, Simon-Pierre s'est souvenu de sa première rencontre avec Jésus et a puisé dans ce souvenir la force de tenir dans l'adversité. Cela ne sert à rien de repartir au large, vers les eaux profondes, comme le suggère ce prédicateur, pense Pierre. Ils viennent de passer la nuit sans rien prendre. Et puis avancer au large, c'est toujours prendre un risque. Au large, on est plus exposé au vent et à la houle. Au large, on est loin de la rive et de la sécurité que la terre ferme garantit. Avance au large. C'est la devise de notre évêque, que nous pouvons porter dans notre prière, puisqu'il va célébrer demain matin ce qui sera probablement sa dernière messe chrismale. Il est proche des 75 ans. Il va la célébrer sans prêtre et sans fidèle, seul dans sa cathédrale. Avance au large. Telle pourrait être la devise de notre projet Mission Espérance, qui nous invite à quitter nos sécurités pour risquer l'aventure de l'évangélisation. Cela ne sert à rien de repartir au large, pense Pierre, mais sur ta parole, répond Simon qui alors devient Pierre, sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole. Premier acte de foi de Pierre, cet homme de peu de foi, comme Jésus lui-même le nommera en Matthieu 14, 31. Premier acte de foi de Pierre qui n'est pas sans nous rappeler celui de Marie, tel que raconté dans ce même évangile, Luc chapitre 1, verset 38. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Il n'y a pas dans l'évangile de Luc de parole de Jésus pour acter le changement d'identité de Simon en Pierre, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Jean médité hier. C'est la foi de Simon qui fait de lui Pierre. Simon devient Pierre en se laissant dévier de sa routine et de la fatalité de sa déception. Simon devient Pierre en acceptant de chercher encore plus loin et plus profondément. Il devient Pierre parce que l'homme qui parle s'est penché vers lui. Et c'est comme s'il l'entendait pour la première fois maintenant. Alors la vieille rengaine prophétique racontée dans la Bible, l'histoire des livres et de la poussière devient son histoire à lui, sa part à prendre et sa chance à saisir. Le poète et philosophe allemand Hölderlin écrivait dans son Hyperion « Nous ne sommes rien, c'est ce que nous cherchons qui est tout. » C'est ainsi assurément que Jésus choisissait ses disciples, non dans l'évaluation de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils cherchent. Quelle belle nouvelle pour nous, qui ne sommes que des personnes ordinaires, mais qui sommes des chercheurs de Dieu. Ce qui donne à notre esprit sa dimension extraordinaire, sa profondeur et quelquefois sa grâce, c'est notre quête, notre soif. Depuis 3 semaines, nous entretenons cette soif, comme au premier jour lorsque nous nous sommes retrouvés au puits de la Samaritaine. Ce matin, la barque est pleine, débordante, au point de menacer naufrage. Il faut que Jacques et Jean viennent au secours de Pierre pour ne pas perdre le moindre des poissons qui s'est laissé prendre dans le filet. Ce matin, c'est l'abondance. Mais si l'abondance de biens ne nuit pas, comme le dit le dicton, elle peut aussi provoquer un déclic, une prise de conscience. Tel est le cas pour Pierre ce jour-là. Tombant aux genoux de Jésus, Pierre dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Oui, nous le savons bien. C'est dans la grâce que se manifeste la faiblesse, la fragilité et même le péché. La rencontre de Jésus avec Nicodème nous avait permis d'en prendre conscience. C'est toujours dans la lumière que se dévoile le péché. Je ne peux repérer la tache sur mon aube dans les ténèbres, il me faut la lumière du soleil pour la repérer. Je cite, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Jean 3, 19, 21, le discours avec Nicodème. Ainsi de notre péché, frères et sœurs. Le sacrement de la confession que nous pourrons bientôt célébrer de nouveau ensemble n'est pas d'abord focalisation sur notre péché, mais contemplation de la grâce divine. C'est dans cette lumière de la grâce que je peux considérer mon péché à la fois avec horreur et en même temps dans cette confiance que Dieu est plus fort que tout, plus fort que le péché. Voilà pourquoi je ne me confesse jamais sans commencer par confesser l'amour de Dieu pour moi que j'expérimente à ce moment-là. C'est dans cette confession, cette reconnaissance de la grâce que se situe de façon ajustée la confession de mes péchés. Ainsi en est-il pour Pierre, qui, contemplant la grâce que Dieu lui fait en demeurant en sa barque, reconnaît son indignité de vivre un tel moment et confesse son péché. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Sois sans crainte, lui répond Jésus, sois sans crainte, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi. C'est Jésus qui agit. Il ne nous demande rien d'autre que de ne pas avoir de crainte, de lui faire confiance. Lui qui est capable de faire que les pierres crient, Luc 19, 40, est bien capable de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Faisons de ce temps de confinement une école de pêcheurs d'hommes, puisque nous nous y laissons faire, transformer par le Seigneur jour après jour. Bon temps d'oraison.